Pour le dernier film que vous avez réalisé avec Marie Jiménez, By the Name of Tanya, on en parle en disant que c'est un long métrage hybride. Il a la force du documentaire, décuplé avec la force de la fiction. C'est un entrelacement de voix, une récolte de témoignages que vous avez eus, que vous faites porter par une seule voix, un personnage symbolique qui est donc Tanya. Et je me demandais à quel moment vous avez imaginé faire ça de cette façon.
Merci de considérer cet objet un peu ovni cinématographique comme d'abord un film et un film puissant, sans le réduire à une classification qui finalement empêche le public d'accéder à des œuvres un peu différentes. La genèse du projet, bien sûr, elle naît en Amazonie puisque ce projet elle raconte la vie d'une jeune femme. Dans les régions de mines d'or en Amazonie péruvienne, exactement. Et donc, la naissance du projet remonte à notre film précédent en Amazonie qui s'appelle Sobre las Brasas, où on filmait déjà des femmes qui étaient au bord de la rivière en train de faire du charbon. Et elles nous ont souvent parlé de l'or. Dans ces régions-là, il y a quand même le mythe de l'argent facile et que tout à coup, l'eau draine le minerai et il suffirait de tendre la main pour avoir la pépite qui changerait toute une vie, ce qui peut se comprendre puisqu'on nous sommes dans des régions du monde où il y a une grande vulnérabilité et une vraie pauvreté, alors qu'il y a une richesse du sous-sol énorme. Donc c'est les grands paradoxes de tous ces endroits du monde qui sont exploités par des grandes compagnies internationales et qui en ont oublié bien vite les populations locales. Et en fait, l'histoire qui fonde tout, c'est l'histoire d'un chercheur d'or qui est maintenant aujourd'hui journaliste, comme vous, dans un média Lima, dans un média alternatif. Et il nous a raconté son histoire. Il avait 17 ans, il cherchait de l'or. Et un matin, il s'est levé en se disant à lui-même, « Si je ne me sauve pas d'ici aujourd'hui, je suis un homme mort. » Parce qu'il faut savoir aussi que dans ces régions, la recherche de l'or dans des conditions extrêmes conduit beaucoup les hommes à l'addiction. On ne sait plus s'arrêter, on ne sait plus partir. Et donc, dans ce moment de conscience, de soubresaut de sa conscience, il est parti au bordel voir la prostituée dont il était tombé amoureux et il lui a dit « Viens avec moi ». Et cette femme lui a dit « Je ne peux pas, j'ai une dette sur la tête et je ne partirai pas. Et même je partirai d'ici, je mourrai en chemin parce qu'on viendrait me rattraper. Ma vie est enfermée ici ». Et donc ça nous a super touchés en fait, d'avoir tout à coup cette relation affective d'un homme et d'une femme qui étaient enfermés dans une même logique, même s'ils ont des positions différentes, bien évidemment. Et donc là-dessus, on est parti à Iquitos rencontrer le brigadier Vasquez, qu'on voit dans le film, qui joue son propre rôle, qui est un peu la star de la traite des êtres humains. C'est-à-dire que c'est un homme remarquable qui s'est donné pour vocation d'essayer de rechercher les filles qui sont encore mineures. Donc on parle de gamines, vraiment, à 13-14 ans. Elles sont emmenées sur la route de la traite des êtres humains pour devenir des esclaves et donc finir dans les bordels des régions de mines d'or. Et donc Vasquez nous a, après toute une relation de confiance, Vasquez nous a confié en fait un trésor qui était une clé USB à l'intérieur de laquelle il y avait tous les témoignages et exactement les dépositions de police de gamines qu'il avait récupérées. Et donc, quand on a eu accès à ces témoignages de l'intérieur, puisque ce sont vraiment des gamines qui racontaient leur histoire à un policier pour que ce policier les sorte de là. Donc, il y avait vraiment dans cette relation quelque chose au niveau du témoignage qui était déjà très, très fort. On s'est rendu compte aussi qu'on était au cœur de quelque chose avec une force de détail puissante. Et donc, on a décidé que toutes ces filles qui était là dans ses dépositions, de toutes ses voix, on allait en faire une. Et voilà, et Tanya est née de ça.
Et je pense que vous êtes toutes les deux plus à la recherche d'une sensation. Et je trouve qu'elle se dégage bien. Et je pense que c'est aussi lié à la narration. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais c'est-à-dire que, il y avait deux postulats. de départ. Nous n'allons pas montrer les victimes de manière frontale et tirer sur le fil de la victimisation de ces femmes. Donc nous cherchons une représentation de ces femmes dans ce qu'elles ont de digne et dans la capacité d'un sujet à raconter son histoire. Donc ça, c'est quand même un postulat politique dès le départ. Et le deuxième, en tant que cinéaste, nous ne voulions pas tirer profit de la pulsion sexuelle du spectateur. C'est-à-dire que dès qu'il y a un film sur la prostitution, on finit quand même par reluquer les cuisses des filles. Bon, on se retrouve dans cette position de voyeur. Et ça, c'est un engagement féministe, c'est un engagement féministe de femmes cinéastes qui connaissent bien leur travail et qui savent aussi très bien comment le regard utilise les pulsions. Donc, à partir de ces deux postulats, vous devez absolument travailler déjà le cinéma avec d'autres types de paramètres, puisque ça induit un type de langage et une prise de position. Donc, d'abord, par rapport à ce rapport à la dignité, on a voulu travailler au niveau d'une mémoire. C'est-à-dire que c'est une femme qui en est sortie et qui se souvient. Donc, on n'est pas dans le fond du trou, même si on va y aller dans le fond du trou, puisqu'elle se souvient de choses qui sont compliquées, bien évidemment. Mais elle, à partir de l'idée d'une mémoire, donc, il y a une forme narrative qui en découle, puisque la mémoire, elle peut être aléatoire. Et la mémoire nous a permis une narration plus libre que quelque part l'histoire tout à fait linéaire qui s'établirait dans le présent. On a voulu aussi, à partir de la mémoire, travailler la voix intérieure, donc être au plus près de ce témoignage, et donc ça relève de l'écriture. Et donc il y a une voix off qui accompagne le film, qui nous met au plus près de Tania. Et aussi, de cette voix off, il y a un glissement dans le in qui nous met dans le face-à-face avec le policier, où là, Tania parle, elle raconte son viol, elle parle en tant que sujet. Donc, ce sont déjà deux paramètres, le off, le in. Le sujet parlant assume une parole à un moment donné, mais par la voix off, on est au plus proche de l'intimité, de la vie d'une femme. Donc ça nous évite déjà tous les gros stéréotypes et ça nous met déjà dans une écriture qui amène alors, à ce moment-là, la sensation dont vous parlez. Et aussi, un des postulats, c'était de se dire l'information nous viendra par la sensation, et donc l'information ne sera pas plaquée de manière frontale sur l'écran pour le spectateur. C'est un film expérience, c'est un film par la sensation. On va ressentir comment, en fait, on a fait de Tania une esclave, comment elle se déshumanise, et c'est un processus de déshumanisation, et comment nous, en tant que spectateurs, on peut le vivre à travers des sensations. C'est aussi une sensation de traversée. On traverse par sa mémoire la vie de toute une femme, et en même temps c'est une traversée de territoire, puisque cette femme, elle est déplacée sur des milliers de kilomètres en Amazonie, et le film traverse ce territoire aussi avec une utilisation métaphorique des paysages et de la rivière, puisqu'on est beaucoup sur le fleuve, et ce fleuve, eh bien, il nous sert aussi de support à la sensation de là où Tania va nous emmener.
Justement, la façon dont vous glissez sur ce fleuve, la façon dont cette caméra bouge, il y a quelque chose de très doux, qui est très étonnant en fait. Hein. Même dans la voix, tout est calme et tranquille. Et ça choque parce qu'il y a cette tranquillité qui choque par rapport à ce qui est raconté. On se demande presque, mais où est passée la colère, où est passée la lutte? Il s'en dégage presque une forme de résignation qui est terrible en fait, hein, qui est vraiment terrifiante. Voilà, là aussi ce choix esthétique, comment vous l'amenez?
Mais c'est-à-dire que on l'amène par la sensation, en fait, de nouveau, et vous le traduisez très très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est, en tant que spectateur, pris soi-même avec le film dans l'étau qui se resserre autour de cette vie foutue, quoi. Enfin, c'est quand même vachement compliqué. Elle est toujours debout, notre amie Tania, mais c'est quand même bien compliqué après avoir vécu la prostitution pendant plusieurs années, alors qu'on a 14-15 ans, de revenir au monde. Tania le dit, comment revenir, hein? C'est vraiment, je me suis tellement séparée de mon corps, comment revenir? Puisqu'on sait qu'à partir du moment où il y a un viol, il y a une désolidarisation du corps et de l'esprit. Et que c'est à partir de cette désolidarisation que d'ailleurs l'utilisation du corps de la femme va être possible, et est possible, malheureusement, terriblement possible. Cette violence, c'est une violence qui travaille les corps et les esprits sur du long terme. Tout ça ne se passe pas, on ne devient pas prostituée du jour au lendemain. Ce sont des longs processus d'abandon de soi-même, de perte de son identité, par des phénomènes qui sont souvent qui sont économiques, en fait. On a besoin de survivre, on en arrive à faire ça, voilà. C'est une manière comme une autre de survivre, comme les chercheurs d'or sont quelque part enfermés dans l'addiction de leurs propres conditions. C'est une réflexion aussi sur le monde capitaliste qui fabrique les esclaves, hein. Donc, quelque part, on est tous assujettis à quelque chose, et dans le monde d'aujourd'hui, finalement, il y a peu d'êtres libres, c'est-à-dire des êtres qui ne sont pas assujettis à quelque chose qui les désolidarise, très sincèrement. Le corps et l'esprit ont été bien séparés pour pouvoir profiter et de nos corps et de nos esprits, très sincèrement. Mais bon, là, bien sûr, on est là au bout du bout de la réflexion avec cette représentation de Tania. Et donc on voulait que la violence, enfin je pense que le film, comme vous le dites, est violent, mais cette violence, elle est dans le hors-champ. Et quand on parle de cinéma, on parle aussi de ce qu'on ne voit pas. Et donc on a essayé par la sensation de travailler le spectateur pour qu'il soit tout à fait pris, sans que cette violence soit directement montrée. Donc c'est un travail de cinéma, de tension quelque part, de mise en tension de nos images par le montage.
Moi, dès la première phrase du film, j'avais les yeux remplis de larmes, et en même temps ça m'a permis, cette narration, cette façon de faire, je suis rentrée dedans et je voulais continuer, quoi. Comment vous-même, en fait, vous êtes sentie face à tous ces récits et...
Ben nous, vous savez, c'est quand même... alors là, c'est le paradoxe, hein. Mais nous, quelque part, plus on traite, plus on va traiter quelque chose de difficile, mieux on s'entoure. Donc on trouve des collaborateurs ou des collaboratrices. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une équipe de femmes. Il y a Virginie Surdèche à l'image. On n'était que des nanas, en fait, dans l'histoire. Et c'est vrai que... vous savez, on travaille en Amazonie, on est sur le fleuve, on est sur le pirogue, on est dans un carnaval complètement fou. Donc, ce sont des territoires qui vous donnent beaucoup d'énergie, ce sont des territoires qu'on visite dans ce qu'ils révèlent de dur, bien évidemment, mais en même temps, ce sont des territoires de survie exceptionnels, hein. Je veux dire, il y a un rapport à la vie que moi j'adore, qui est très puissant. Avec Mary Jimenez, quand on est là-bas, on est extrêmement vivante, on n'arrête pas, on rit beaucoup, ça danse. Enfin, ce sont des territoires très riches au niveau de leur pulsion de vie, justement, et de survie. Vous savez, en Amazonie, il n'y a pas vraiment de futur, hein, c'est la vie au présent, mais le présent pur, ça nous ramène à la préciosité de la vie, et c'est la mort et la vie tout le temps, les bébés, les grands-mères, quelqu'un meurt, il y a une naissance en même temps, on est dans un bidonville, enfin on est prise complètement par cette vie qu'on adore, en fait, dont on a besoin, nous. Donc, c'est-à-dire aller maintenant là-bas, c'est un peu aller se ressourcer dans quelque chose qui est à la fois parfois très dur, mais à la fois très vivant. Donc, c'est plutôt le By the Name of Tania est un tournage très heureux, très 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 heureux, très amoureux des gens, très charnel, en fait. On a embrassé ce monde. On travaille aussi avec des transsexuels qui ont une part dans le film, et donc on travaille avec des gens qui sont étranges, qui sont particuliers, donc ça nous nourrit beaucoup, et dans cette rencontre avec eux naît le film aussi. Donc c'est une affaire de partage.
Il y a donc clairement de la réalité, notamment le personnage, le policier Ismael Vázquez Colchado, qui joue donc son propre rôle, comme vous l'avez dit, et qui permet, lui, donc, d'ancrer tous ces témoignages sur une note de réalité, j'ai envie de dire. Celle, donc, qui amène la lutte, qui amène de l'espoir.
Oui, oui, on voulait que dans le commissariat, il y ait cette parole... Enfin, Tania est sauvée, hein, dans l'histoire. Donc, c'est quand même quelqu'un qui va en sortir Après, la question de ce qu'elle deviendra, ça, enfin, quelque part, ça lui appartient. Mais en tout cas, à partir du moment où elle peut adresser une parole qui est reconnue dans sa dimension, et c'est ce qui se passe dans le commissariat avec Vasquez, et donc c'est donc une image positive d'un commissariat et d'un flic. Là, pour le coup, on a un flic qui écoute, qui prend en considération, et en tout cas qui, pour sortir une fille d'un bordel, il faut le faire, quoi. C'est pas donné à tout le monde d'aller chercher les gamines, hein. C'est très compliqué. Et donc voilà, c'est cette part-là, effectivement, qui donne peut-être, c'est peut-être pas l'espoir, mais en tout cas, on en sort, voilà, parfois, certains en sortent. Il y a de la résilience par rapport à ça. Il y a des femmes qui ont vécu ça et qui peuvent en parler aujourd'hui et qui peuvent expliquer pourquoi et en quoi, à un moment donné, elles ont été emmenées là-dedans. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Vasquez fait un énorme travail de prévention pour que les gamines dans les zones ultra vulnérables soient attentives aux propositions de travail qu'on leur formule, aux formes de séduction qui se présentent à elles. Parce que vous savez, la famille au Pérou, elle est très, enfin la famille dans les zones populaires, hein, enfin dans les zones vulnérables et populaires, la famille est souvent très très explosée. Donc les mecs, on sait plus trop, le père, on sait plus trop, la mère, ouais, enfin c'est compliqué, quoi. Tout le monde à 14-15 ans, une gamine, elle doit aller bosser, ou en tout cas il faut participer à l'économie de la famille, quoi. Il y a pas l'enfance, elle est courte, quoi, vraiment. Et donc c'est vrai que à un moment donné on se retrouve comme ça au bord de la route sans savoir trop bien de quoi demain sera fait, et puis on prend sa route, et si sa route elle est mal abordée parce qu'il y a quelqu'un qui est justement sur cette route et qui vous propose un truc qui va dégénérer et que vous ne contrôlez pas, c'est parti, quoi. Mais c'est ça, je veux dire, cette histoire, elle appartient à toutes les populations vulnérables et elle appartient plus principalement aux femmes dont le corps est souvent dans ces situations plus extrêmes est souvent une marchandise, quoi. Et les femmes sans papiers qui débarquent ici, qui sont dans la clandestinité, ce sont les mêmes qu'on trouve derrière le théâtre flamand, rue de Flandre, derrière le KVS. Enfin, je veux dire, il suffit de se balader 5 minutes dans le centre de Bruxelles pour voir exactement des femmes qui, par l'exil, par le trajet qu'elles ont fait, par l'offre mensongère d'un travail ou l'espoir mensonger à un moment donné, se retrouvent coincées sans papier. Et il suffit qu'il y ait eu à un moment donné une violence sexuelle qui permette qu'il y ait ce phénomène de désolidarisation. Et on se dit, je vais me prostituer 2-3 fois par jour et ça va me permettre de survivre et je commence avec ça. Par ailleurs, on a rencontré beaucoup de prostituées pendant qu'on préparait le film et il y en a pour qui c'est assez clair. On a rencontré une femme, par exemple, qui se prostituait 4 jours par semaine pour donner à bouffer à ses gosses. Hein. Et c'était 4 jours prostitution, 3 jours maman temps plein. Quoi, et ça permettait à ses enfants d'aller à l'école. Donc voilà, c'est un lieu, enfin la prostitution, c'est un lieu de survie économique qui malheureusement est un lieu hors loi, hein. Nous sommes dans des zones illégales, et à partir du moment où il y a illégalité, le meurtre est possible, hein, voilà.
Oui, de fait, faut pas aller à l'autre bout du monde, en effet. Je pense que
on parle beaucoup pour le moment du féminicide. Le féminicide, c'est quelque chose qui apparaît par l'Amérique latine. Alors tout à coup, ce sont les pays latino-américains qui dénoncent le nombre de féminicides par an. C'est énorme. Donc c'est vraiment le règlement de compte sur le corps de la femme. C'est-à-dire que les femmes qui meurent là-dedans sont juste des objets de vengeance. Leur corps est devenu l'objet d'un lieu de vengeance, de règlement de compte entre mecs. Donc même certaines femmes n'ont même aucune histoire liée à ce qui va provoquer leur mort. Et quand on se questionne en Europe sur le nombre de féminicides, tout à coup ça apparaît.
Vous avez pris quelqu'un qui est connu au fait au Pérou, Fiorella Aquila. Vous êtes allé directement vers elle, vous avez pensé directement à elle, et comment le film alors est reçu ?
En fait, Fiorella n'est pas connue. Hein. Elle est non, elle c'est quelqu'un de très discret. Elle est maintenant, enfin, le film, on a réussi, enfin, on est en train de réussir à financer ses études de droit, puisqu'elle voudrait accéder, enfin voilà, elle voudrait être avocate et principalement travailler dans la communauté LGBT. Mais non, Fiorella, elle n'est pas connue. On l'a rencontrée sur la place d'Armes, qui est la grande place d'Iquitos, le jour de la journée des femmes, puisqu'elle était, en tant que militante présente. On a été touchés par sa discrétion et sa finesse, son intelligence. Et donc, on lui a demandé de venir passer un casting. Elle est venue et on a été assez convaincus, en fait. Et depuis, c'est devenu une amie. C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on retrouve à chaque fois, quoi.
Comment le film a été reçu au Pérou, s'il a déjà été vu?
Le film est reçu au Pérou un peu comme il est reçu ici. Je dirais que c'est un film qui étonne de par ce qu'il propose cinématographiquement. Donc on a eu plusieurs projections au Festival de Lima, qui est un gros festival très important en Amérique latine. Et donc le film surprend par sa proposition. Et au niveau de sa population, au Pérou, les gens sont étonnés de voir ça, en fait. Mais vous savez, au Pérou, le Pérou, c'est immense. Il y a les Andes et il y a l'Amazonie. Donc il y a la selva et la sierra. Les gens de la selva sont très différents des gens de la sierra. Et les gens de Lima, qui vont au cinéma, qui ont accès au cinéma, sont des gens soit de la classe moyenne, soit de la classe plus haute, on va dire. Donc il y a quand même, l'Amérique latine est remplie de notions de classe, hein. Je veux dire, les différences de classe sont très présentes, se voient, hein, dans la société latino-américaine, beaucoup plus qu'ici. Et donc, c'est vrai que pour la classe dominante ou la classe dirigeante, tout à coup, oh mon Dieu, quoi. C'est comme si on avait ouvert la porte à une vision de leur pays, mais qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça les intéresse, ça interpelle. Ça interpelle aussi beaucoup les ONG qui se rendent compte qu'il y a un énorme travail à faire. Vous savez, les grands paradoxes, ils sont ceux-là. C'est que, par exemple, Vasquez fait le brigadier. Il fait une campagne de sensibilisation à la traite des personnes dans les écoles. Et en même temps, dans les écoles, on ne parle pas de sexualité. Donc on est dans un pays qui est très catholique, très réactionnaire, et où il y a encore énormément de tabous. Alors, par exemple, on parle de la traite des êtres humains à l'école, mais on ne va pas parler de la sexualité, de comment on tombe enceinte. Donc, en fait, à 18 ans, il y a des filles qui croient que... qui sont complètement naïves par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de contradictions. Enfin, c'est un pays rempli de contradictions. C'est un pays où il y a beaucoup... Malheureusement, il y a une énorme recrudescence de la présence des évangélistes. Et donc, qui dit évangéliste, surtout en Amazonie, qui dit évangéliste, dit vraiment, alors là, on va surtout pas parler de ces problèmes-là, on va les écarter, alors qu'ils sont là. Donc au Pérou, ça a fait un peu l'effet d'une petite bombe, et on a une presse importante, c'est double page dans La Repubblica, par exemple, qui est l'équivalent du journal Le Soir ou de la Libre Belgique ici. Il y a un distributeur au Pérou, le film va être vu, va être partagé. En même temps, de par son écriture, c'est pas un film nécessairement si accessible que ça. Donc les gens au Pérou, ce qu'ils voient, c'est la telenovelas. Les codes de langage, ils sont très réduits. Donc le film, il permet aussi d'ouvrir des voies de cinéma pour les Péruviens. Et il faut savoir aussi qu'en ce moment, en Amérique latine, il y a une émergence de nouveaux cinéastes et de cinéastes femmes en Argentine, au Brésil, au Pérou, qui sont vraiment des femmes cinéastes super intéressantes. Donc c'est très beau, en fait, que Mary Jimenez, qui est d'origine péruvienne et qui reste péruvienne au Pérou, c'est une cinéaste, une des premières femmes cinéastes péruviennes, Mary. Et donc là, maintenant, avec Tania, elle est reconnue par la jeune génération. C'est super beau, en fait.
Oui, j'entends que vous êtes contente de ce film. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est de voir comment vous arrivez à bien travailler ensemble, comment ça se mélange. C'est une belle rencontre, en tout cas, vous deux.
On est contente de ce film, et j'en ai une émotion par rapport à ça. Parce que merde, quel boulot, quoi, c'est long. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et c'est pas évident de trouver un langage qui nous correspond à toutes les deux, donc on a fait plusieurs films pour trouver ce lieu-là, en fait. Et ce lieu-là, ce n'est ni Mary ni moi, c'est une troisième voie, en fait. Et ça, quand ça vous arrive, c'est assez magnifique. C'est-à-dire que c'est croire que dans l'imaginaire, dans nos imaginaires partagés, va naître un autre, une autre. Et ça, c'est riche, en fait, parce que ça vous donne... C'est comme si Tania était un premier film. Et ça, c'est très beau, en fait. Je trouve que ça vous donne beaucoup de fraîcheur par rapport au cinéma. Il y a comme une jeunesse, on a une excitation avec Tania qui nous pousse à faire un prochain film ensemble, mais qui nous met au monde aussi cette troisième personne. Et Virginie Surdège à la caméra a été vraiment l'artisane de cette troisième voix, en fait, parce que c'est vraiment fort. Donc ce qui nous lie, c'est beau, et artistiquement, ce qu'on a trouvé va nous nourrir pour plusieurs années, en fait. La presse accueille bien ce film, ça se passe bien. Enfin, il y a des gens comme vous qui sont très réceptifs. On verra au niveau du public pour sa sortie, c'est le 23 octobre au Cinéma Palace, à Bruxelles en tout cas, puis en national. Mais bon, voilà, maintenant il faut. Mais nous, en tout cas, on a été au maximum de ce qu'on pouvait faire, avec une économie très modeste, puisque le film, même s'il se situe maintenant sur les écrans comme une fiction, il a été produit uniquement avec l'argent du documentaire. Donc, qui peut le moins, peut le plus. Et ça aussi, ça ouvre une voie. C'est se dire, finalement, à 5, avec du temps, un financement correct, mais vraiment petit, par rapport à ce que le cinéma draine en termes de financement. Des femmes en Amazonie, aujourd'hui, s'allient les unes avec les autres pour faire ça. Donc, ça donne plutôt de l'espoir par rapport aux capacités à faire des films.
Bah, c'est super. Je vais rester sur cette note-là. Je ressens vraiment tout ce que vous dites, et c'est un très très beau film. Je savais que j'allais aimer, parce que je sais que j'aime vos films, mais là j'étais particulièrement touchée.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.